Bon, une histoire qui défraie la manchette, c'est une histoire qui est spectaculaire par ses chiffres, évidemment. On parle d'un divorce qui est en instance présentement. Un mari qui est un multimillionnaire et une femme d'affaires qui sont impliquées. La demande est assez importante, imposante. Au moins 13 millions de dollars du patrimoine, 50 000 dollars par mois demandés. C'était des c'est un train de vie qui était assez princé. Là. Vous allez comprendre qu'on accumulait les voyages qui pouvaient coûter jusqu'à 100 000 dollars au total, des repas qui étaient immenses, des montants, des allocations importantes pour l'achat de chaussures et des choses comme celles-là. Et on demande des portions du patrimoine maintenant. C'est ce que réclame cette femme d'affaires-là à son ex dans ce divorce. C'est spectaculaire parce que ce sont les sommes, puis ça n'a aucune commune mesure avec ce que votre réalité puis la mienne non plus, là. Mais ça change quand même pas qu'il y a des aspects qui sont importants là-dedans, parce que même si le patrimoine est plus petit, ben ça peut amener encore des déchirements qui sont tout aussi importants. L'affaire Eric et Lola avait amené le projecteur là-dessus. La preuve, c'est que la Cour avait dit au législateur, on a remis ça dans votre cour, puis vous devez statuer finalement sur l'avancement des couples qui sont en union de fait. Jean Lambert est notaire. Il a été membre du comité ministériel sur la réforme du droit de la famille. Maître Lambert, bonjour.
Bonjour, M. Beaumont.
Maître Lambert, l'affaire Éric puis Lola, et cette chose-là, nonobstant les montants qui sont un peu moindres, c'est la même histoire.
Ben, effectivement, on retrouve la même dynamique. Alors, un des deux membres du couple, qui, dans ce cas-ci, vient de connaître une déconfiture financière importante, se retrouve peut-être un peu démuni. Et l'autre partenaire du couple, ben, lui, est relativement bien pourvu, donc il est très riche. Alors, on a une demande pour avoir un partage de cette richesse qui appartient à un des deux. Évidemment, on est loin du cas de monsieur et madame Ordinaire. Et c'est un peu ce que le groupe de travail on a fait, c'est qu'on a vu plutôt la réalité du Québec et des couples que je qualifie d'ordinaire, sans être méprisant du tout. Là. C'est vous et moi, c'est tout le monde. Alors, et non pas ces quelques... En anglais, c'est point une expression assez les happy few. Alors, c'est ça. Mais ceci étant dit, ça nous permet de ramener sur le tapis du sujet.
Dites-moi, dans un cas comme celui que l'on voit, bon, on parlait du partage à valeur égale entre autres d'une propriété qui vaut 60 millions de dollars. Visiblement, il y a un patrimoine qui avait été monté par l'individu avant la relation avec cette personne-là. Est-ce qu'une entente prénuptiale a une valeur?
Sur ce cas précis du chalet ou de la maison à Montréal, c'est que ça fait partie du patrimoine familial. Peu importe le contrat que vous auriez pu faire avant de vous marier. Ça, c'était ce qu'on peut appeler le grand changement de 1989. À l'époque, ça a fait pas mal de vagues. Là, j'étais bien placé pour le savoir. Et effectivement, la résidence secondaire, les véhicules automobiles, les épargnes pour la retraite, ça, c'est partagé. Okay. Lorsqu'il y a une dissolution, peu importe que vous soyez sans contrat de mariage ou avec un régime de participation ou la séparation de biens, ça s'impose en dehors de tout ça.
Automatiquement, même si le patrimoine a été fait avant union. On va prendre un cas
Non.
Donc ça, on peut le diviser.
C'est-à-dire que si la propriété de monsieur était acquise et payée, j'insiste, entièrement avant l'union, à ce moment-là, elle n'est pas partageable. Mais si elle était acquise, mettons, 10 % de paiement et 90 % pendant l'union, bien là, il y a une compensation à laquelle le conjoint a droit. Alors, dans le fond, on applique la logique, le bon sens là-dedans.
J'ai entendu dans mon entourage des gens qui étaient en union, puis il y avait une partie du fonds de pension qui était accumulée par la personne. Est-ce que si, exemple, je ne sais pas, moi, je m'accumule un patrimoine de 100 000 $ avant de convoler en juste noce avec la dame que j'ai choisie, est-ce que je peux le faire inscrire disant ce 100 000 $-là m'appartient et n'appartient pas à madame parce que je l'ai gagné et j'étais seul?
On peut le faire par contrat, évidemment,
oui.
En convenir. Maintenant, dans ce qui concerne les rentes et les pensions, c'est assez différent parce qu'il y a une loi différente qui s'appelle la loi sur les régimes complémentaires de rente et c'est la loi qui détermine.
Okay.
Alors, la durée de l'union, oui, peut être prise en considération. La régie des rentes, d'ailleurs, le fait aussi. Le nombre d'années de vie commune est tenu en compte.
Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que vous avez travaillé là-dessus, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez travaillé sur le comité ministériel, ça a duré 2 ans et demi. De voir qu'aujourd'hui, là, ça n'a pas changé. Malgré la décision de la Cour qui avait renvoyé ça dans la Cour du législateur, c'est là que vous êtes arrivé d'ailleurs avec le comité ministériel. Pourquoi ça n'a pas bougé?
Ben, écoutez, la ministre de la Justice du gouvernement précédent avait le rapport depuis un bon moment, plusieurs années, et je pense que elle avait d'autres priorités, on va dire ça comme ça. À notre plus grand chagrin, là, je vous le cache pas, on aurait préféré, on croyait que c'était mûr. La Cour suprême avait été claire, elle avait renvoyé la balle, comme vous l'avez si bien dit, elle avait dit, bon, le Québec est capable de voir à régulariser et à amener de l'équité. Mais dans tout ça, on parlait plutôt des conjoints de fait.
Oui.
Alors que le cas qui est médiatisé actuellement, ce sont des gens qui sont mariés.
Oui.
Alors, on comprend que ces gens-là ont des droits selon le droit actuel, mais alors que ceux qui en ont pas, c'est ceux qui seraient dans une situation assez semblable, mais qui ne sont pas mariés ou unis civilement.
Rappelez-moi en quelques secondes, quelles étaient les propositions. Parce que, je veux juste préciser, parce que le Québec fait un peu bande à part ailleurs qu'ailleurs au Canada. On est une des seules législations, puis vous me corrigerez si je fais erreur, là, où il n'y avait pas ce genre de protection-là pour les conjoints de fait.
Alors, les diverses provinces, à des degrés divers, je dois dire, mais prévoient un certain partage des biens familiaux, peu importe qu'on soit marié ou pas. Le Québec, là-dessus, effectivement, on se distingue parce que les conjoints de fait n'ont pas de droit dans les patrimoines respectifs de l'un et l'autre membre du couple. Ce que le comité sur la réforme du droit de la famille proposait, et encore là, c'était... pensons-nous, sans prétention à être originaux, c'est que on respectait l'autonomie des personnes. On a dit la société a évolué. Maintenant, généralement, les deux membres du couple ont une autonomie financière qui s'équivaut. Chacun a sa carrière, ses activités professionnelles, ses revenus. Donc, ça, on disait, ça sera aux gens d'arranger ça. Là où on est intervenu, c'est quand il y a des enfants. Alors, on comprend qu'on est loin du cas là dont on parle. Nous, ce qu'on a dit, c'est dès l'instant que le couple a des enfants, là, il y a un des deux membres du couple qui peut être défavorisé parce qu'il met sa carrière en veilleuse pour s'occuper des enfants, alors que l'autre continue de, si vous me permettez le mot, de s'enrichir et de se bâtir un patrimoine. Donc là-dessus, nous, on a dit, là, il faut rétablir une équité. Dans le fond, on s'inscrit très bien dans le jugement de la Cour suprême, parce que Lola a eu des enfants avec Éric. Mais remarquez que les enfants n'étaient pas en cause là-dedans. Ils étaient très, très bien pourvus par l'attention.
Non, c'était pour maintenir le train de vie de
la dame en question. Oui, c'était ça.
Maître Lambert, parce que je sais que ça peut être complexe, puis je ne veux pas rentrer dans la fiscalité de tout ça non plus. Là. Un contrat prénuptial en 10 secondes, ça vaut quelque chose, oui ou non?
Absolument. Absolument. Si vous n'avez pas de contrat de mariage, c'est le régime légal. C'est un régime de partage. On appelle ça la société d'acquêt. Donc, tout ce qui est gagné pendant l'union, du labeur, du travail, ça se partage.
Voilà.
Alors que si vous êtes en séparation de biens, qui est un contrat obligatoire avant de se marier, là, à ce moment-là, il n'y en a pas de partage. Donc, on voit qu'on passe d'un extrême à l'autre. Je peux dire que la société d'acquêt est un extrême. Moi, je pense que c'est un excellent régime, surtout pour un jeune couple qui fonde une famille.
Oui.
Alors, je pense que c'est un excellent régime. Mais quand même, on part d'un principe de participation à un principe où chacun ses bébelles dans sa cour.
C'est ce qu'on peut dire, finalement, aux gens, c'est d'aller s'informer avant de faire union. Comme ça, ça évite bien des problèmes après, là.
C'est surtout parce que notre droit n'étant pas modifié, les conjoints de fait, on leur conseille de s'asseoir et de faire une convention, ça. Et surtout pendant que ça va bien. Parce que quand ça va plus bien, oublier ça, ça fonctionne plus.
C'est pas dans les pleurs qu'on sépare les mouchoirs, hein? Maître Jean Lambert, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Mon plaisir.
Il est membre du comité ministériel sur la réforme du droit de la famille. Il est